Salut à tous, bienvenue sur l'antenne de Radio MDM Electric Troubles Radio Show numéro 1220. Voilà, ce n'est pas 1200 comme je le croyais, mais 1220. Reprise des interviews aujourd'hui, parce que pendant deux semaines, il n'y en a pas eu, vous en êtes aperçu. Il y avait plein de bonne musique. Sachez que, tiens, j'ai décidé de faire ça, j'espère que je vais arriver à m'y tenir. Toutes les semaines avant les deux émissions, donc du mercredi et du vendredi, je balancerai sur Internet les playlists, en tout cas ce que l'on est censé passer dans ces émissions, sachant que pour la première, celle d'aujourd'hui, qui contient une interview, c'est bien sûr dépendant du temps d'interview, etc. Donc des fois on pourra tout passer, et même plus, et des fois on en passera un peu moins. Voilà, mais bon, aujourd'hui, en interview, ce sera Lucas du groupe Mad Foxes qui sort un disque le 30, donc bientôt. Et excellent disque voilà, que je me suis procuré, ou que je vais me procurer, je ne sais plus parce que j'en ai commandé plusieurs, en format vinyle. Mais on va le retrouver tout à l'heure, donc on va passer un premier morceau de tout de suite du Tatapoum qui pulse, c'est le moins que l'on puisse dire, c'est mon autre groupe, les Parisiens, le titre du morceau, La Joie, j'adore ce morceau, c'est parti. Voilà, donc un premier morceau dans Electric Troubles Radio Show. Il s'agissait des Parisiens de Monde de Merde. Comme promis, nous sommes avec Lucas de Mad Foxes. Bonjour à toi.
Salut Yann.
Eh bien, un grand merci d'être avec nous. On va parler d'un disque qui sort dans deux jours. C'est bien ça? Officiellement.
C'est ça.
Voilà.
Officiellement, exactement.
Officiellement. Est-ce que tu peux me dire le titre, parce que je fasse pas d'erreur sur la prononciation, s'il te plaît?
Ouais. Il s'appelle Ashamed.
Ashamed, ok. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de se diffuser très rapidement un premier morceau, je souhaiterais que tu me présentes le groupe, hein, voilà, tout simplement, puisque c'est aussi depuis 1996, n'importe quoi. 2016.
Ouais, c'est ça, 2016.
Alors, dis-moi, qui y a dedans?
2016. Alors, on a Ellie. Ellie Pacro à la batterie, aux percussions et au chant.
Ouais.
Backing vocal, genre deuxième voix, en général. On a Arnaud à la basse. Et on a moi-même Lucas à la guitare et au chant.
D'accord. Donc, ça s'est monté comment ce projet, là?
Ça s'est monté, Ellie et moi, donc le batteur, chanteur et moi, on s'est connus au lycée. On jouait dans un orchestre ensemble, je jouais des percussions et lui aussi. Et on est devenus très potes très vite. Et on s'est un poil perdu de vue un an, parce que moi j'étais à la fac, et lui est un peu plus jeune que moi. Et quand j'ai voulu monter un groupe, je l'ai appelé, je lui ai dit mec, faut qu'on joue ensemble, viens on se voit, et on a commencé à jouer comme ça. Et après on a recruté un bassiste qui était Marc à l'époque et qui est Arnaud depuis un an.
Ah, c'est-à-dire il a changé de nom.
C'est vrai que ça sonnait très comme ça quand je te l'ai dit. Maintenant, c'est Arnaud. Il a changé d'identité. Non. On a joué avec Marc pendant 3 ans et on s'est séparés. Et Arnaud est arrivé dans l'aventure il y a un an.
D'accord. On va se passer un premier morceau. Gender Eraser.
Yes.
Voilà, morceau qui pète bien, que j'aime beaucoup. C'est peut-être mon préféré d'ailleurs. Est-ce que tu as quelque chose à dire de particulier sur celui-là?
C'est un morceau important pour nous au niveau de la thématique et des paroles, parce que c'est un morceau qui parle d'un sujet fort et qui nous tient à cœur, qui est celui de pas faire attention à ce que pensent les autres de ce que devrait être un mec ou une fille ou les deux, et de juste être soi-même en fait.
D'accord. Ok, ben on va se le passer de suite et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Voilà donc un premier morceau de Mad Foxy's Gender Eraser. Donc, qu'est-ce que je voulais te demander quand vous avez monté ce projet au départ, donc à deux, enfin quand vous avez vraiment lancé, puis après avoir, ouais. Vous avez recruté ensuite. Ça me fait marrer ce mot recruté, on se croirait dans un club de foot. Quel était votre... Oui, en plus, c'était un CDD. En plus, il a eu un petit un contrat
de 3
ans.
C'était pas prévu pour, mais les circonstances ont transformé en CDD. Ouais.
D'accord. Qu'est-ce que vous vouliez faire, en fait, au départ? Quelles étaient vos envies?
Jouer.
Oui.
Jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous, on a toujours été plus un groupe de live qu'un groupe de studio, en tout cas dans notre ressenti. Ouais. Je dis pas qu'on est nécessairement meilleur en live qu'en studio, mais... L'idée, c'était de tourner le plus possible. Au début, on partait avec notre voiture. Après, on a acheté un camion, on a investi pour pouvoir faire plein de cafés-concerts partout en France. Et écrire de la musique, évidemment, qu'on puisse jouer sur scène. Quoi.
Mmh. Voilà, c'était simplement ça.
Ouais, ouais. De base, ouais, exprimer des choses. Mais c'est devenu vraiment un truc vital au bout d'un moment. Mais je pense que vraiment la motivation de base, c'était de jouer et de se confronter aux gens et de d'être le plus intense possible sur scène et d'écrire les morceaux les plus cool possible, quoi.
D'accord. Mais musicalement, pourquoi vous êtes parti vers ça?
Moi, c'est mes influences de toujours. En fait, j'ai toujours écouté du rock. J'ai eu une grosse phase quand j'étais ado de punk. Après j'ai écouté beaucoup de trucs différents, évidemment, mais le rock, c'est toujours la musique qui m'a marqué. J'ai grandi avec Nirvana, j'ai grandi avec même des trucs plus récents, Arctic Monkeys, les Strokes, et du coup c'était une évidence pour moi de faire du rock dès le départ. Et ce style là c'est plutôt grunge à la base, et devenu un peu post-punk, grunge, heavy et tout ça.
D'accord. Et ton collègue,
lui, il était moins punk à la base, il était plus tout ce qui est soul, funk et des trucs un peu plus chill, on va dire. Et je l'ai un peu mis le nez dedans. Et il a adoré, il a vachement accroché. Et donc du coup, c'est vrai qu'on s'est forgé un peu des influences communes, quoi.
Lui s'y est retrouvé pourquoi? Parce que c'était tout en énergie.
Ouais. Ouais, c'est le côté très frontal, très énergique. Aussi, le fait que ce soit une musique écrite, ça nous a toujours vachement intéressé. En fait, plus que la musique improvisée, moi, j'ai toujours été du côté de la musique écrite. Donc, passer beaucoup de temps en répétition, à écrire des parties, à construire des morceaux, c'est un truc qui nous a vite fasciné, en fait.
D'accord. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous, là, ou pour toi, pour se dire, tiens, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, monter un groupe? Tu as vu des gens qui t'ont épaté sur scène ou qui...
Ouais, grave. J'ai vu sur vidéo, tu vois, genre moi, quand je suis rentré dans le rock avec Green Day et des groupes comme ça, et j'ai vu des concerts où je me disais, waouh, c'est incroyable tout ce que tu peux véhiculer via cette musique. Et après, ouais, j'étais fasciné par... c'est les classiques, hein. J'étais fasciné par Kurt Cobain, j'étais fasciné par le punk, par les Ramones, par plein de trucs, enfin par l'attitude et par la musique aussi, tu vois.
D'accord.
Donc, ouais.
Et est-ce que, du coup, sur scène, quand vous jouiez, est-ce qu'il y avait une attitude, des postures, ou est-ce que...
Non. En fait, le problème de la posture, c'est qu'on est vite dans l'imitation et ça nous a toujours fait flipper. En plus, on a beaucoup, beaucoup d'autodérision avec les gars. Donc, c'était compliqué de se prendre au sérieux. Ça a toujours été compliqué de se prendre au sérieux. Donc non, on n'a pas eu de posture. On a mis du temps à se trouver sur scène. On a mis du temps à se dire, OK, là, on a dompté un truc. Au début, on s'attarde sur ce que les gens voient de nous, ce qu'ils pensent de nous. Et au bout d'un moment, à force de jouer sur scène, on s'est rendu compte que ça se faisait naturellement et qu'on était juste nous-mêmes. Peut-être différents dans la vie, parce qu'il y a pas mal de gens qui nous disent « mais vous n'avez rien à voir sur scène et comment vous êtes hors scène, quoi. » Mais c'est nous quand même, c'est une partie de nous qui existe, quoi.
Et comment les gens vous décrivent sur scène?
Bête. des gens avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'excitation, d'énervement et de rage et de...
D'accord.
Ce qu'on est content d'entendre. Après, pas quand on loupe nos concerts.
Ça peut devenir le bordel.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça peut vite être. Ouais, la limite est très fine avec juste un brouhaha. Donc.
Ok. Dis-moi, tu peux me parler du premier disque? Comment il était?
Premier
Comment
disque.
tu le vois avec le recul?
Il était beau, il était juvénile, il
Ouais.
était. C'était un peu l'adolescence du groupe. J'ai beaucoup écrit tout seul sur le premier disque avant d'arranger les morceaux avec Marc et Ellie. Donc c'était un disque un peu plus. Un peu moins. Comment dire? C'était moins nous trois, c'était plus. Moi j'avais une vision beaucoup plus stricte de comment ça devait se passer et j'avais probablement tort à l'époque. Et du coup j'écrivais. Ouais, j'ai écrit beaucoup les trucs en amont. Mais c'était quand même un disque sur lequel on a pu laisser s'exprimer beaucoup de trucs, des influences un peu plus stoner, un peu plus heavy à l'époque. Voilà, après en le réécoutant, je lui trouve beaucoup de choses à changer, mais il est tel qu'il est, et c'est ça qui est important.
D'accord. Donc celui-là était sorti en format CD.
Celui-là était sorti en format CD, ouais.
D'accord. À quel moment vous avez commencé à bosser, pardon, sur le nouveau?
En mai 2020.
Mai
Mai,
2020.
juin 2020 à peu près.
D'accord. Donc vous avez profité de la période
Ouais.
de fermeture de la société.
C'est ça,
Ouais.
exactement.
Donc c'était justement, vous avez commencé à bosser à ce moment-là parce que c'était devenu vital de faire quelque chose ou est-ce que c'était déjà anticipé depuis un moment?
Non, c'est devenu vital. Ce qui était anticipé, c'est qu'on savait qu'on allait probablement se mettre en pause autour du mois de juin-juillet, parce que après les concerts du début de l'été, qui sont quand même toujours très chouettes, on s'était dit qu'on se mettrait en pause pour écrire l'album. Par contre, on s'était aussi dit que ce serait hyper dur de se mettre en pause parce qu'on n'arrive pas à refuser les demandes de concerts quand il y en a et qu'on a du mal à ne pas jouer.
D'accord.
Et là, ce que ça a créé, c'est une bulle hyper hyper créatrice et créative en fait, de se dire mais on n'a rien d'autre à faire que d'écrire de la musique. Et je pense que ça a été contraint, mais ça a été peut-être la meilleure contrainte qu'on puisse avoir de juste écrire et de pas se préparer à aller faire des concerts, répéter, faire des résidences, mais juste pour écrire tous les trois.
Donc vous avez composé où dans cette période d'enfermement?
On a composé chez Arnaud, notre bassiste qui habite à Angers, et chez mes parents qui ont une maison à côté de Nantes, pas loin de Cholet. Et donc quand il y avait des disponibilités, on basculait entre ces deux lieux de vie. Mais on a toujours préféré répéter dans des lieux de vie que dans des lieux de musique, en fait. Mettre dans
D'accord.
une chambre et bouger tous les meubles et mettre une batterie, les amplis.
Et pourquoi? Ça permet
C'est
quoi?
parti. Bah, ça permet de se sentir chez soi, ça permet d'y passer des journées entières, ça permet de créer quelque chose qui n'est pas juste de la musique, mais qui est plus humain. Et on le sent sur la manière dont on a composé l'album, ça a été ça à chaque étape, très humain en fait.
Ça permet d'embêter la famille aussi.
Ça permet évidemment d'embêter la maman, mais ça fait depuis que j'ai 12 ans qu'elle me dit de ne pas faire de batterie. Quand il y a des clients, parce qu'ils sont hôteliers en chambre d'hôte, tu vois, et laisse tomber, j'ai passé mon enfance à devoir taper sur mes genoux quand je faisais de la batterie et à pas brancher mon ampli, donc on se venge un peu là, ça y est.
D'accord. Par rapport à ce nouveau disque, vous aviez des envies particulières en termes d'écriture, de son, d'ambiance?
Ouais, on avait des envies. Après, je pense que les envies, elles sont nées aussi de nos influences et de ce qu'on écoutait à ce moment-là et de comment on s'est retrouvé à avoir envie de sonner inconsciemment. En fait, on ne s'est pas dit on veut sonner comme ça, comme ça, comme ça. Par contre, on s'est clairement vite rendu compte qu'en effet, il y avait un truc très post-punk dans notre approche du son et de la musique et de l'écriture à ce moment-là. Et quand on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait et que ça fonctionnait, on s'est dit bon bah. Faut creuser ce sillon-là parce qu'on sent que c'est là qu'on est pertinent et intéressant. Et à l'inverse, tout ce qui est qui peut être très stoner, très lourd et très, par exemple, une influence qu'on n'a plus du tout sur cet album, qu'on avait beaucoup sur le premier, c'est Queens of the Stone Age ou des groupes comme ça, dont on se sentait beaucoup moins proche. Probablement qu'avec l'arrivée d'Arnaud, ça a changé des choses aussi au niveau de notre approche. Et ouais, c'est un peu un tout, une espèce de chimie un peu chelou de à la fois ce qu'on écoute en ce moment et là où on a envie d'aller, tout ça.
Ouais. En même temps, c'est un peu le truc du moment, musicalement.
C'est un peu le truc du moment, c'est vrai. Et c'est un peu ce qu'on a eu du mal à... pas nécessairement à assumer, mais c'est-à-dire on s'est dit, bon, là on va jouer ce qui marche en ce moment dans le rock, sachant que le rock est loin d'être la musique qui marche le mieux en ce moment.
Oui, tout à fait.
Mais c'était clairement ce qui marchait, mais on s'est aussi dit, bah, à un moment donné, ce qui marche, c'est parce qu'il y a une mouvance, et la mouvance, elle nous plaît. Et nécessairement, ça fait partie de nos influences, des groupes comme Fontaines D.C., des groupes comme Shame, des groupes comme Slaves. Et automatiquement, bah, on est proche de ces groupes-là. Et on est proche, pas personnellement, mais on s'y retrouve vachement. Donc, on s'est dit que c'était hyper naturel pour nous, donc on n'allait pas se cacher.
C'est vrai qu'on est quand même passé d'une période avec des sons un peu lourds, tu sais, des ambiances costauds, quoi, balèzes, et vers quelque chose de quand même beaucoup plus dans l'énergie maintenant. Et d'ailleurs, je trouve d'ailleurs que les groupes sur scène dégagent beaucoup plus de choses en ce moment que toutes ces périodes avant où je vais pas dire que ça se regardait un peu, mais c'était plus posé, quoi, plus lourd et plus posé.
Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Et je pense aussi que c'est redevenu, finalement, le rock, c'est redevenu une musique indé et underground, parce que entre 90 et 2000, c'était la musique qui trustait tout, MTV y compris et tout ça. Et peut-être que redevenir une musique de chien et une musique vraiment indé, c'est ce qui lui permet d'exister, et c'est peut-être sa raison d'être de base. Et je trouve ça très cool, en fait.
Dis-moi, vous avez enregistré avec qui? Ou est-ce que c'est vous, d'ailleurs, peut-être?
Non, c'est pas nous. On a peu de compétences. On a enregistré avec Christophe Ogoma, qui est un peu notre quatrième membre quand il s'agit d'enregistrer de la musique, et qui avait bossé sur le premier album aussi, qui est un ingénieur du son très compétent, et qui fait aussi de la direction artistique avec nous, parce que vraiment il a une approche hyper intéressante de la musique, et il nous aide beaucoup s'il s'agit d'enregistrer.
D'accord. Tu m'as évoqué tout à l'heure... on va se passer un deuxième morceau, pardon, si j'oublie de passer, ça va être un problème. Donc le deuxième, c'est Propeller, je ne sais pas si ça se dit comme ça.
Okay. Ouais. Propeller, ouais.
Propeller, voilà. Donc, quelque chose à dire sur celui-là?
Propeller, c'est le morceau le plus abrasif peut-être de l'album, et c'est celui qui sonne le plus violent, donc régalez-vous.
Eh bien, on va le faire.
Bonne écoute.
On va le faire de suite. Okay. C'est parti.
Ça marche. Once again, you don't look nice. Try to look nice. Propeller, yourself better, yourself better. Propeller.
Vous êtes dans Electric Troubles sur MDM. Bah ouais. Voilà, donc un deuxième morceau de cet album de Mad Foxes, donc Propeller. Qu'est-ce que je voulais te demander ? Oui, tu as tout à l'heure évoqué le premier titre qu'on avait diffusé, enfin en tout cas le contenu des textes. Globalement, sur les autres textes, ça parle de quoi ?
Ça parle de beaucoup de choses différentes. Ça parle parfois de vécu un peu sombre, notamment moi j'ai eu une phase de crise d'angoisse assez intense entre les deux albums, et il y a un morceau qui parle de ça qui s'appelle The Cheapest Friend. Donc d'anxiété. Ça peut parler aussi de la peur, d'aimer l'autre, sur Fear of Love, le dernier morceau. Parfois c'est des sujets un peu plus entre guillemets poétiques. Patience, et je pense au morceau Patience et au morceau Sight, qui sont plus des morceaux qui dans lesquels on a envie de dire qu'on aime juste la beauté des choses simples, et des fois prendre un peu de recul et apprécier ce qu'il y a autour de nous sans toujours être dans l'action et dans le faire tout le temps. Shame, ça parle de déconstruire la masculinité et le patriarcat. Gender parle un peu de ça aussi. Crystal Glass, ça parle d'amour et de comment on peut parfois être nul en drague. Et nous, c'est rarement parfois, c'est tout le temps même. Et voilà, donc il y a plein de sujets différents, des sujets qui nous tenaient à cœur et qu'on trouve assez actuels et assez personnels en même temps.
D'accord. Le visuel du disque, qui c'est qui l'a fait et ça symbolise quoi ?
Alors, le visuel du disque, c'est Alexei Kondakov, c'est un artiste ukrainien qui l'a réalisé. Il l'a pas réalisé directement pour nous, mais c'est un visuel qu'on a vu sur ses réseaux, parce que ce gars-là, on suivait ce qu'il faisait, on était fan. Et quand on a vu ça, on s'est tous les trois dit, mais là, c'est vraiment, ça représente vraiment ce qu'on veut dire sur l'album. Donc on l'a contacté en lui disant est-ce que tu serais OK pour nous aider le visuel, en tout cas pour qu'on bosse ensemble là-dessus et qu'on s'en serve pour l'album. Et il a été OK et c'est devenu la pochette de l'album. Pour nous, il veut dire certaines choses. Il veut notamment dire que les deux filles qui sont sur la pochette et qui sont dans un supermarché, donc c'est... Bon, c'est pas hyper radiophonique, mais en fait, il y a deux filles qui viennent des années 1800 et qui... C'est un collage, donc qui sont collées sur une photo d'un rayon surgelé d'un supermarché. Et nous, ce que ça représente, c'est être complètement perdu dans le monde actuel et se demander ce qu'on fait là, en fait. Et essayer de trouver sa place. Et je pense que l'album Machine parle un peu de ça, d'essayer de trouver sa place dans le monde, tout en respectant les autres, tout en étant dans le partage et dans toutes ces choses-là. Donc, donc vraiment, pour nous, c'était hyper représentatif du propos de l'album.
D'accord, il est très original comme visuel. Ouais, c'est cool. Dis-moi, quel titre du disque représenterait, enfin quel morceau représenterait le mieux ce qu'est Mad Foxes ?
Très bonne question.
Vous avez 3 secondes.
Ouais. Ce qu'est Mad Foxes, je dirais peut-être un morceau comme Patience, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a ce côté, enfin, l'intro et le couplet sont assez aérés, très doux. Et le refrain explose, et c'est des trucs qu'on a souvent fait par le passé, des couplets doux et des refrains plus violents, ce qu'a beaucoup fait Nirvana par exemple, pendant tous leurs albums. Après, ce que pourrait devenir Mad Foxes, avec le temps, peut-être un morceau comme Home se rapproche aussi de d'esthétique qu'on aime, qui est beaucoup plus posé, un poil plus acoustique.
D'accord.
Mais oui, je dirais peut-être ces deux morceaux-là.
D'accord. Il sort en quel format ? Enfin, format vinyle, et uniquement ?
Il sort en CD et en vinyle.
D'accord.
Et en numérique, évidemment.
Ok. Comment on fait pour se le procurer, ce disque ? Où est-il ?
Eh bien, dans tous les bons disquaires de chez vous. normalement, il est à peu près... Enfin, il est dans une grosse partie des Fnac, parce qu'on bosse avec un distributeur qui s'appelle L'Autre Distribution, qui fait de la distribution indépendante, qui fait au niveau des Fnac et aussi au niveau des disquaires indés. Donc si vous avez des disquaires, a priori, vous pourrez soit le trouver, soit le commander chez un disquaire indé, ce qu'on vous pousse à faire d'ailleurs, plutôt que d'acheter en ligne ou quoi. À la FNAC aussi. Et après, vous pouvez aussi nous envoyer un message et nous le commander directement, il sera disponible sur le site. Nous, on essaie de jouer le jeu de la distribution, surtout qu'elle est indépendante, donc vous pourrez probablement le trouver chez un disquaire.
D'accord.
J'espère.
Il sort le 30. Comment on prépare une sortie de disque dans cette période un peu trouble ?
On fait comme on peut. Ouais. On fait comme on peut. On aimerait faire un concert de sortie d'album, mais on peut pas. Donc on fait pas. On bosse avec une attachée de presse qui est top. Donc ça permet quand même bien préparer l'album, d'essayer de le diffuser au plus de personnes possible. Et on se dit qu'on apporte peut-être un peu de baume au cœur aux gens avec de la musique enregistrée, à défaut de pouvoir leur proposer de la musique live.
D'accord. Et est-ce qu'on aborde une sortie comme ça, tu sais, si tu compares par exemple à la sortie du premier disque, donc qui était dans une période où il y avait un live possible, là il n'y en a pas, est-ce qu'on aborde la sortie du disque de la même manière au niveau émotionnel ? Est-ce qu'on y met les mêmes choses ? Ou est-ce que c'est différent ?
Non, c'est quand même différent. C'est stressant et flippant, vraiment là. Et émotionnellement, on est un peu sur le fil parce que on peut pas défendre notre enfant, notre chérubin numéro 2. Et du coup, c'est vrai que c'est tendant. Et en même temps, on se dit que on essaie d'entretenir l'espoir que c'est pas parce qu'il y a une crise du Covid depuis un an et demi que la musique s'arrête. Et on avait envie de le sortir quoi qu'il arrive et on voulait pas attendre. Mais ça va avec des déconvenues du type quand est-ce qu'on va pouvoir le défendre sur scène, est-ce que les gens auront toujours envie de voir les morceaux sur scène si les concerts reprennent dans 6 mois. Un peu anxiogène.
Est-ce que vous avez imaginé une manière, parce que c'est, comment dire, d'habitude on le sort, en fait, un max de promo à un moment donné, et puis après, la prolongation de la promo, entre guillemets, ça se fait par le concert. Donc est-ce que vous avez imaginé d'autres plans de, entre guillemets, de communication, un petit peu, pour pas tomber dans l'oubli, comme quand on va dans un supermarché, tu sais, où la durée de vie c'est une semaine, et puis après, ça passe à l'as.
On a une date de péremption quand même.
Vous avez discuté de tout ça avec votre attaché de presse ?
Ouais, on en a parlé aussi avec Alexis, qui gère notre booking et qui est notre manager. On est dans les starting blocks pour jouer. Maintenant, c'est vrai que s'il n'y a pas de concert, on pense que l'album existera et que quoi qu'il arrive, il continuera d'exister et c'est le plus important. Et que probablement que si des concerts reprennent dans longtemps, on sortira au moment de la reprise des concerts autre chose, peut-être dans un format un peu plus restreint, peut-être un EP, quelque chose avec une autre consistance, peut-être. Peut-être un truc beaucoup plus violent, beaucoup plus frontal que l'album. Et on s'adaptera. De toute façon, c'est ce que font tous les artistes en ce moment et tous les musiciens, c'est s'adapter, quoi. Donc, on y passera.
Ok. Dernière petite question. Votre label, que je ne connaissais pas, El Muchacho Records.
Qui c'est ça.
C'est qui ?
C'est nous. C'est notre label.
C'est vous, d'accord.
Parce que c'est notre label. On l'a créé pour l'occasion. En fait, on cherchait des labels au moment de l'enregistrement de l'album et on n'a pas trouvé. Et le constat d'échec s'est transformé en opportunité, c'est-à-dire qu'on s'est dit, si personne ne veut porter le projet,
Allons-y.
Nous, on va le faire. Et en plus de porter notre projet, dans un futur plus ou moins proche, on pourra porter le projet d'autres groupes qui nous font kiffer. Et c'était la motivation de ce truc-là.
Ok. Très bien, on va se quitter sur un dernier morceau. Tu l'as cité tout à l'heure, c'est Crystal Glass, voilà.
Yes.
Avec un bon groove.
Ouais. C'est Eddie et Arnaud qui sont...
Excellent morceau.
Changer du groove, ah, c'est cool, merci.
On va se quitter là-dessus et puis on va suivre l'affaire. Donc le disque, je rappelle, sort dans 2 jours, voilà. Le format est sympa, 33 tours, le format va être joli. Donc
le vinyle est rose.
Voilà. autant profiter de tout ça. Je te remercie beaucoup, Lucas.
Merci Yann, merci à toi.
Et peut-être à bientôt,
sait-on
jamais. Salut.
Oh oui, j'espère. À plus. Ciao. Salut, merci.
Vous êtes dans Electric Troubles sur MDM. Bah ouais.
Thanks.
Il nous venait de Californie à l'instant. Il s'agissait de Smirk ou Smirk, ou je sais pas, on dit ça comme on veut. Do You, c'était le titre du morceau et c'est sorti en cette année 2021, commencé depuis quelques mois. On va partir maintenant du côté de deux formations qui, elles, œuvraient il y a longtemps. Le premier, c'est Dinosaur Junior, bien sûr, salutations à Bébert. Been There All The Time. Et Bob Mould, Briefest Moment, dans la foulée, extrait de cet extraordinaire disque qu'est Silver Age, qui date de 2012. Oui, ça fait bien longtemps. C'est parti, Dinosaur Junior, Bob Mould. Can I fix it and still care? Can I run and you'll be there? Wishing I could run and hide, juggling messages inside, stalling, trying to buy more time. Can I be a part of you? Get there, what to do? Can I get there from inside? Of all the ways I could have tried, can I be there all the time? What I've done, play it back so I don't run. Now I'm walking on the sun. Is it on me? Is it on me? Is it on me? Is it on me? We'll be right back. Mould, à l'instant, l'américain, Bob Mould américain, ça fait pas mal ça, on dirait un film de cow-boy, Bob Mould américain, celui qui tire plus vite que les autres. J'ai vu un film naze d'ailleurs hier soir avec Sharon Stone et je sais pas quoi, il y avait que des cow-boys qui se tiraient dessus en plein milieu de la ville, c'était super naze. Enfin bon, peu importe, la semaine prochaine il y aura une interview, je ne sais pas encore qui ce sera, je vais regarder dans mes chroniques les choses qui m'ont vraiment plu. Il va falloir faire un tour, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ride d'Oxford, les Anglais, bien sûr, même époque que Dinosaur Junior, machin, tout ça. The Fall, formation un peu plus ancienne, mais qui a œuvré aussi à la même période. Le premier morceau, ce sera Making Judas Smile pour Ride. Et pour The Fall, Hot Cake, extrait d'un disque de 2010, Your Future Hour Clutter. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, on va se l'écouter. C'est parti. Thank you. Voilà, il est temps de se quitter dans Electric Troubles Radio Show. C'était The Fall à l'instant. On va partir sur Cab Driver Stories, la formation byzantine. Everyone Watches Everyone, c'est le titre du morceau que l'on va s'écouter. Et puis on se donne rendez-vous à vendredi soir, 23h, pour une playlist Electric Troubles. Voilà, j'ai mis tous les morceaux sur ma page Facebook, donc surtout n'hésitez pas à y faire un petit tour, savoir qu'est-ce qui correspond à quoi, etc. Et puis j'ai fait la même chose, donc je vous rappelle pour l'émission de ce soir. Donc encore, un grand merci à Lucas de Mad Foxes pour cette interview très intéressante tout à l'heure, je pense, même si il sortira bien plus tard le fanzine Kavzik, mais je pense que je mettrai cette interview de Lucas dans notre prochain numéro. Voilà, je pense qu'elle vaut le déplacement. Allez, on se donne, enfin comme toutes les autres bien sûr, mais il faut bien faire des choix à un moment donné. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine, mercredi, pour une autre interview. Et je vous rappelle que le fanzine Kavzik numéro 81, qui vit une très belle vie, est toujours disponible. Ciao, bye bye.